territoire. Plus de 40 cas de viol sont enregistrés chaque jour en RDC. Tel est le résultat du rapport sur l'ampleur des violences sexuelles en RDC, publié ce mardi à Kinshasa. Ce rapport, qui couvre la période allant de 2011 au premier semestre 2013, fait état de plus de 29 000 cas de violences sexuelles dont les principales victimes sont des femmes. Quelle analyse faire de ces rapports et que faut-il pour lutter efficacement contre les violences sexuelles en RDC? Nous en parlons avec Mme Florence Boloko, elle est directrice adjointe du Centre de communication au ministère du Genre, Famille et Enfants. Bonsoir Mme Florence Boloko.
Bonsoir monsieur.
Maître Rufin Louko Moussoubao, il est avocat et expert en violences sexuelles. Bonsoir Maître Rufin Louko Moussoubao.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous les auditeurs.
Elle est au téléphone, c'est Madame Solange Rafiga, elle est secrétaire exécutive du caucus des femmes congolaises du Sud Kivu pour la paix. Bonsoir Madame Solange Rafiga.
Bonsoir à Monsieur le journaliste.
Parmi les réactions ce soir, nous avons celle de Robert Bahomé de Bukavu au Sud Kivu. Je ne pense pas que le problème des violences sexuelles puisse être résolu efficacement par des mécanismes autres que les mécanismes psychologiques. Auquel cas, cette démarche serait vaine, car ces problèmes sont avant tout des problèmes de comportement d'hommes, carrément des problèmes psychiques. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Plus de 40 cas de viols sont enregistrés chaque jour en RDC. Tel est le résultat du rapport sur l'ampleur des violences sexuelles en RDC et action de lutte contre ces phénomènes publié hier mardi à Kinshasa par la ministre du Genre, en présence notamment de la ministre de la Justice et de Madame Bangoura, secrétaire générale adjointe de l'ONU chargée des violences sexuelles dans les zones en conflit. Ce rapport, qui couvre la période allant de 2011 au premier semestre 2013, fait état de plus de 29 000 cas de violences sexuelles dont les principales victimes sont des femmes. Selon la ministre du Genre, les auteurs de ces violences sont entre autres des groupes armés, des milices et même des civils. On écoute Geneviève Nagossi au micro de Michel Kifindangoy.
De manière globale, les statistiques rapportent 29 354 cas de violences sexuelles et basées sur le genre, à raison de plus de 11 000 en 2011, 18 000 en 2012 et plus de 7 800 au premier semestre 2013. Ces données ne sont pas exhaustives parce qu'elles ne couvrent pas l'ensemble du territoire national. Et de manière globale, vous avez constaté que le viol à lui seul occupe au moins 81% des cas des victimes. Et aussi, les victimes sont à plus de 98% des femmes. Nous avons vu que même dans les zones non en conflit, on a rapporté des cas de violences sexuelles. C'est vous dire qu'il y a certaines pratiques qui peuvent expliquer cela. Nous devons travailler en synergie. Avec une bonne sensibilisation à travers les médias, je pense que nous pouvons prévenir les violences sexuelles.
La secrétaire générale adjointe de l'ONU chargée des violences en zone de conflit, Madame Bangoura, a déclaré que les Nations Unies sont prêtes à tout mettre en œuvre pour traquer tous les violeurs, quels qu'ils soient et où qu'ils se cachent. Florence Boloko, vous êtes directrice adjointe du Centre de communication au ministère des Genres, Familles et Enfants. Plus de 40 cas de viol enregistrés chaque jour et 29 000 cas de violences sexuelles entre 2011 et 2013 en RDC, selon ces rapports. Et comment vous analysez ces chiffres?
Merci beaucoup pour la parole. C'est comme Madame la ministre venait de le dire tout à l'heure, ces chiffres sont alarmants. Mais malheureusement, ils ne représentent qu'une infime partie du territoire national. Et donc, si les données avaient couvert l'ensemble du territoire national, ils auraient été un peu plus alarmants que ce que vous avez entendu. C'est-à-dire
des données qui ne couvrent que du territoire national.
Même pas le tiers. Moins du tiers du territoire national, parce que il y a la province du Sud Kivu, il y a la province du Nord Kivu, la province orientale, il n'y a que trois territoires. Il y a l'Ituri, il y a le bas et Haut-Touélé, et il y a une petite partie au Katanga et un tout petit peu dans le Bas-Congo et à Kinshasa. Et donc, tout le reste du territoire national n'est pas couvert. Donc, nous n'avons pas des données. Et c'est ce qui est déplorable, parce que ce que nous avons, ce que vous avez entendu là, ça aurait été plus alarmant. Et ça ne représente qu'une infime partie
du territoire national. Et pourquoi vous n'avez pas toutes les données?
On n'a pas toutes les données, tout simplement parce que, bon, avec les financements que reçoit le ministère dans la collecte des données et tout, nous n'avons pas pu couvrir tout le territoire, mais il y a quand même des intervenants sur le plan du territoire national qui sont en train de travailler et qui ont des données disponibles, mais qui ne rapportent pas auprès du ministère. Et donc, le ministère n'a pas pu enregistrer toutes les données, tout simplement parce que ces intervenants travaillent, excusez-moi, en ordre dispersé et donc ne s'alignent pas à la coordination du ministère du genre qui a la coordination, qui a le leadership de la coordination de toutes les composantes en matière de lutte en matière de lutte contre les violences sexuelles.
Madame Boloko, comment vous expliquez l'ampleur que prend ces phénomènes en RDC, en dépit de tous les efforts, n'est-ce pas, qui ont été fournis, en dépit de toutes les stratégies qui ont été mises en place, on n'arrive toujours pas à éradiquer ces phénomènes? C'est pourquoi à votre niveau?
D'abord, nous devons nous dire qu'il y a la guerre. Et en dehors du fait que nous sommes en conflit dans la partie est, la plus grande partie de l'est du pays, il y a également les zones qui ne sont pas en conflit, qui connaissent également ces cas de violence. Il y a une recrudescence dans des cas de violence. Mais également, il y a des causes qui font que ces violences ne font que s'accentuer. Il y a notamment la pauvreté, il y a la promiscuité dans laquelle vivent les familles. Donc il y a comme ça plein de causes que l'on peut évoquer, relever, et qui font que ces cas de violences sexuelles se généralisent sur toute l'étendue du territoire, pas seulement dans les zones en conflit.
Et dans les violences sexuelles, les viols à lui seul occupent 81% des cas des victimes. Comment vous expliquez cela?
C'est vrai que le viol occupe à lui seul plus de 80%. Plus de 80% de la population. Cela s'explique par le fait d'abord des conflits, comme je venais de le dire, mais également il y a la pauvreté et également il y a plusieurs autres causes qui peuvent être à la base des viols. Des viols, notamment la promiscuité dans laquelle vivent les gens. Il y a la pauvreté, je l'ai déjà dit, mais également d'autres raisons qui peuvent faire qu'il y ait un peu plus de cas de viol plutôt que d'autres formes de violence.
Madame, peut-on dire que le bilan de la lutte contre les violences sexuelles en RDC est négatif, parce que ça ne fait qu'augmenter?
Je ne dirais pas qu'il est négatif, parce qu'il faut quand même reconnaître les efforts fournis par le gouvernement pour essayer, pour lutter contre ce fléau qui n'a que trop duré dans notre pays.
Mais des efforts qui ne produisent apparemment pas assez d'effets.
Si, quand même, ce sont des efforts qui fournissent quand même des effets, fussent-ils minimes.
Tout ça, ces chiffres contredisent cela.
Ces chiffres contredisent cela, mais il faut se rendre à l'évidence qu'il y a quand même des efforts qui sont fournis. Il y a toute la mobilisation autour du projet Starec, dont les financements viennent du Canada, de la Belgique, de la Suède et des Pays-Bas. Mais également, il y a les agences des Nations Unies, telles que l'UNFPA ou UN Women, qui interviennent aussi. Les efforts sont du reste minimes, mais il y a quand même des efforts qui sont fournis pour essayer de faire face à ce fléau.
Madame Solange Loachiga, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif du caucus des femmes congolaises du Sud Kivu pour la paix. Comment vous analysez le contenu de ces rapports?
Oui, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de féliciter Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, toute son équipe ainsi que ses partenaires, et particulièrement UNFPA, qui ont fourni des efforts pour la publication et l'élaboration de ce rapport. Ce rapport qui contient des données fiables en valeur qualitative et quantitative, comme vous le savez, tout travail qui n'est pas basé sur des données qualitatives et quantitatives, c'est un travail à remettre en question. Et donc, un coup de chapeau au ministre. Et je demanderai aux autres ministères, autres secteurs, d'emboîter le pas à Madame la ministre pour qu'on ait des données dans tous les secteurs. Je voudrais dire, contrairement à ce que vient de dire Madame Florence, que je salue, le fait que le rapport ne couvre pas toute la République démocratique du Congo, on ne peut pas dire que les données ou les contenus n'est pas alarmant. Parce que je me dis que dans d'autres cieux, dans d'autres pays, même un seul cas de viol mobilise toute la nation. Et donc, pour s'inquiéter, on ne doit pas dire que le rapport doit couvrir tout le territoire national pour se dire que, OK, là où on peut dire que c'est alarmant. Donc, les chiffres sont là. Le 29 000 cas de violences sexuelles dont les femmes sont les principales victimes, c'est alarmant. Et je pense que nous devons nous questionner sur ce contexte et cette situation qui ne fait que trop durer. Et donc, un rapport, comme je l'ai dit, qui décrit la situation grave et dramatique dans laquelle vivent les femmes congolaises et surtout celles de ces 7 provinces citées, dont en tête la province du Nord Kivu, suivi du Sud Kivu, si j'ai bonne mémoire. Et donc, vous comprendrez que la situation, elle est alarmante.
Madame.
Et donc, plus de 40 cas enregistrés chaque jour, pour moi, c'est intolérable pour une nation. Et je pense que tout Congolais qui écoute cela devrait avoir honte de le dire et de l'entendre. Et donc, pour moi, la situation, elle est alarmante et nous devons travailler pour éradiquer ces fléaux des violences sexuelles.
Madame,
sur le plan localisation, je voulais dire, les 7 provinces concernées, comme je l'ai dit, donc vous comprenez que les provinces dans lesquelles il y a les conflits armés, ce sont les provinces qui viennent en tête. Et donc, vous comprendrez que la guerre armée, les conflits armés sont parmi les causes principales de ces violences faites à la femme et causes principales de ces cas qu'on a fait ressortir dans ce rapport.
Madame Solange,
oui.
Sur base de ces chiffres, de ces données, peut-on dire que les qualificatifs selon lesquels la RDC est une capitale de viols, on peut dire que ces qualificatifs se justifient?
Je ne voudrais pas me plonger dans ces concepts de définition, de qualificatifs qu'on a donné à la RDC, mais je constate tout simplement que ces fléaux de violences sexuelles continuent et persistent malgré les efforts fournis d'un côté par le gouvernement congolais à travers le ministère du Genre, le ministère de la Justice, et d'autre côté les acteurs de la société civile qui contribuent à donner les cas de violence ou des rapports qu'ils transmettent au ministère du Genre, Famille et Enfants. Et donc je ne voudrais pas me plonger dans ces qualificatifs, le constat est là, la question des violences sexuelles reste une problématique à l'RDC.
Madame Solange, selon ces rapports, les violences ne sont pas seulement commises dans les zones de conflit. Et cela veut dire que ce n'est plus les faits des seuls hommes en armes.
Oui, effectivement, le rapport l'a bien dit. Et donc, hormis les hommes en armes, il y a certains civils qui se sont plongés dans ce comportement vraiment inhumain, ce comportement dégradant, et que nous, les femmes et d'autres personnes qui luttent pour la défense des droits humains, ne cessent de condamner. Et donc, partant de ces cas, les civils, ça montre que non seulement les hommes en armes sont des auteurs de ces viols, mais aussi ces civils. D'où l'interpellation du gouvernement congolais, de l'État congolais, c'est lui qui doit garantir la sécurité, mais aussi l'interpellation de la communauté internationale. Parce que quand on parle des hommes en armes, vous savez qu'il y a des auteurs qui doivent être concernés par la question internationale, et surtout comme les Nations Unies, la communauté internationale s'engage aussi sur ce chemin de lutter contre les violences sexuelles en RDC.
Madame.
Et donc,
oui,
et
madame.
Du côté gouvernement et du côté communauté internationale, les efforts doivent être multipliés.
Comment vous expliquez l'extension de ce phénomène? C'est au moment où on met un accent sur la lutte contre les violences sexuelles au Congo que ce phénomène tend à s'étendre. Hein. Aujourd'hui, même les zones qui ne sont pas affectées par les conflits armés sont aussi touchées par ce phénomène. Comment vous expliquez cela?
Je pense que le problème est à la fois politique et social. L'homme congolais, je pense que la mentalité de l'homme congolais, et quand je parle de l'homme congolais, permettez-moi, je parle de l'homme au masculin. Je pense que le comportement, la mentalité de l'homme congolais devrait être reconstruite. Parce que l'homme a perdu les valeurs sociales, l'homme a perdu les valeurs humaines et s'est plongé dans des comportements inhumains. Et donc, il faut vraiment conscientiser, il faut punir, il faut lutter contre l'impunité. Parce que si on punit sévèrement les auteurs de violences sexuelles, je pense que d'autres Congolais peuvent tirer des leçons et se dire non, si nous continuons sur le chemin, nous allons subir le sort des autres. Je ne dis
Madame,
pas qu'il n'y a pas de cas qui ne sont pas punis.
Madame, merci, nous allons vous redonner la parole. Maître Ruffon Louko, nous rappelons que vous êtes avocat expert en violences sexuelles. 40 cas de violences sexuelles, 29 000 entre 2011 et 2013. Les chiffres effrayent. Comment vous analysez cela?
Non, d'abord, je déplore. Et permettez que je puisse déplorer les tons élégants et dociles de son Excellence Madame Geneviève. Ce taux-là n'est pas le taux de la ministre Dijar, dont la composante femme est la première victime des rapports qu'elle lit comme si c'était un rapport de résultat des examens d'État.
Elle devait utiliser quel taux?
Un taux grave. 40 par jour, c'est une statistique effrayante.
Et ça ne couvre que moins d'un tiers du territoire national.
Et puis d'abord, madame, ce n'est pas juste, permettez que je dise la vérité par rapport à ça. Les données sont disponibles au ministère déjà, peut-être pas. Mais notre ministère de l'Intérieur, avec tous les services de la police, a les données. Moi qui ai fait 9 mois ininterrompus de recherche sur les violences sexuelles au Kivu et à Ituri, donc le Grand Kivu et la province orientale. Et j'ai fait toutes les provinces de la République. J'ai trouvé des données qui sont continuellement renouvelées, ça veut dire mises à jour. Madame, il ne peut pas dire ça. Ça n'honore pas notre République que nous n'avons que des données partielles des provinces. Les données au ministère de l'Intérieur sont disponibles. Et si voilà. Elles ne sont pas canalisées au ministère de l'Intérieur, nos services de police ont les données. Et au ministère de la Justice, on a des données judiciaires. C'est-à-dire, non, doucement, nous avons des données. Et ces données-là, sur toute l'étendue du territoire national, sont effrayantes.
Oui, maître, tout cela se passe dans un contexte où on fait de la tolérance zéro un slogan. Je sais qu'à un moment donné, vous avez aussi travaillé au ministère de la Justice.
Nous sommes même
avez,
à la base.
Vous avez mis un accent sur la tolérance zéro. Comment vous expliquez qu'en dépit de tous ces efforts, n'est-ce pas, qui sont fournis, en dépit de toutes ces stratégies qui sont mises en place, ce phénomène ne fait que prendre de l'ampleur?
Oui, mais sa cause n'est pas résolue.
Quelle est la cause principale
des violences sexuelles? C'est la guerre. Les statistiques que nous avons rencontrées sur le terrain et les causes que nous avons étudiées, la cause principale de cette explosion des statistiques de violences sexuelles ou de ces fléaux, c'est la guerre. Donc depuis 1996 jusqu'à ce jour. Tant que l'on ne résout pas ça, à l'est du pays, on y revient. Et puis, vous savez combien la communauté internationale a englouti en RDC, en termes de financement uniquement sur les violences sexuelles. Si je vous en donne quelques cas, vous tomberez d'ici. Pourquoi? Parce que on a multiplié des financements et tenez, ces financements...
Et vous avez des chiffres?
J'ai quelques chiffres. Par exemple, Régisco a englouti pour une année 400 millions de dollars pour les violences sexuelles et résultat, ça continue.
Régisco, réseau?
Régisco, c'était le programme de l'Union européenne en ce qui concerne le renforcement de la justice à l'est du pays. Je ne peux pas citer le programme qu'on a donné à RCN, à Avocats sans frontières et à tous les autres programmes et aux agences des Nations Unies qui sont tous, n'est-ce pas, gérés par la MONUSCO.
Et pourquoi tout cela ne porte pas des fruits sur le terrain?
Non, parce que principalement, c'est pour la consommation extérieure. Des fonds arrivent, ne sont gérés que par les agences et la communauté nationale. On ne permet même pas, c'est à quelques exceptions près qu'on permet à la RDC, aux organismes nationaux de gérer ces fonds. Ensuite, lorsque c'est, comme on dit dans tous les rapports de la communauté nationale, que c'est devenu un fonds de commerce, mais ces statistiques-là, que Madame a lues, ce sont des statistiques du NFPA. Ce ne sont pas nos statistiques. Et encore une fois, tout ça pour gérer en faisant plaisir à la communauté internationale. Donc, je vais me résumer en disant, ces statistiques ne sont pas exactes parce que d'abord, l'avantage, ce ne sont pas nos statistiques. La police, le ministère de l'Intérieur devrait, le ministère de la Justice, étayer ces statistiques. Ensuite, les fonds qu'on a engloutis, ce sont des fonds qui enrichissent des agences et ne font pas le travail sur le terrain. Quel est le travail? On a voulu que pour lutter contre les violences sexuelles, qu'on étendisse le nombre des OPJ et des inspecteurs de la justice militaire sur l'étendue du territoire national. Vous prenez comme Bafoua-Sende, vous prenez comme le territoire de Kailo, des territoires vastes qui ont moins de 20 policiers. Et parmi ces policiers, vous verrez que moins de 10 parmi eux sont des OPJ. OPJ, ça veut dire les premiers qui doivent recevoir les plaintes des victimes de violences sexuelles. Or, ça n'a réussi aucun financement. Bon, ensuite, la justice qu'on devait installer dans tous les pays, ça c'est la branche numéro 1 ou numéro 1 de la justice. Ça veut dire la police et les inspecteurs. Mais la justice, c'est à peine que la MONUSCO, celle-ci, coopère avec le gouvernement. J'ai dit à peine, pour ne fût-ce que déployer tous les magistrats à leur point d'attache ou d'affectation pour qu'elles puissent, ceci, en tant que représentants des institutions, répondre aux besoins de la population. Donc, bref, je considère que cette question est tellement grave que lorsque nous en parlons, La tête froide.
Donc,
avec
peut-on,
des données
peut-on affirmer sans risque de se contredire que ce processus de lutte contre les violences sexuelles a échoué parce que la RDC ne s'est pas appropriée, n'est-ce pas, cette lutte?
Bon, ce sont les faux qu'on ne nous a pas appropriés. Et j'étais d'ailleurs choqué de voir que l'Union européenne est venue même avec la Cour des comptes de l'Union européenne nous donner des leçons sur des faux que nous n'avons pas gérés. Et au ministère de la Justice, on a des preuves par rapport à la contrebande et de la gestion de ces fonds. Et c'est parce que ces fonds-là n'ont pas servi effectivement à la lutte. Vous savez, ces fonds ont été engloutis notamment dans quoi? Dans des formations croisées, même formation avec les mêmes acteurs, aux mêmes bénéficiaires, violences sexuelles. Et vous vous retrouvez dans une année 10 formations sur le même secteur, même bénéficiaires, même formateurs. Et lorsque vous demandez qu'est-ce que ça coûtait, 10 millions de dollars, 9 millions de dollars, 2 millions de dollars, 1 million de dollars. Ces formations-là, les mêmes formations, et on paye combien à tous les intervenants? C'est 100 dollars, 200 dollars, 50 dollars. Donc bref, c'est la façon dont on a géré tous ces financements-là. Lorsque vous demandez par exemple à l'hôpital de Panti combien ils ont réussi pendant tout ce temps-là, vous verrez pourquoi ce docteur Mukwege est toujours révolté parce que ces faux-là, comme on dit, énergie zo sauté biso tout le monde et le comment. Non, nous ne voyons rien.
Madame Florence Boloko, les données sont disponibles au ministère de l'Intérieur. Donc, Madame la ministre du Genre ne peut pas dire qu'elle n'a pas toutes les données.
Je ne crois pas qu'il y ait... s'il y a peut-être des données au ministère de l'Intérieur, je vais demander à Maître Louko de bien vouloir nous aider à y accéder pour enrichir notre base de données. Parce que parmi les quelques défis que nous avons relevés, il y a également ce problème de données, c'est-à-dire que le souci est d'étendre la couverture des zones de collecte de données sur l'ensemble du territoire national. Et donc, s'il y a des données fiables, s'il y a des données disponibles, qu'on nous les transfère au niveau du ministère du Genre, nous allons les analyser et les intégrer avec les données disponibles que nous avons au niveau du ministère. Et un autre défi qui a été relevé, c'est le manque de coordination des interventions et des intervenants autour du leadership du gouvernement. En principe, le ministère du Genre ayant le leadership dans la coordination de toutes les interventions, tous les intervenants devaient fédérer autour du ministère du Genre pour lui permettre de mener à bien son action. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous rencontrons.
Pourquoi et donc, ça ne se passe pas ainsi?
Cela ne se passe pas ainsi. C'est parce que les gens ne sont pas disposés à partager ce qu'ils ont comme données. Les gens ne sont pas disposés, comme il vient de le dire. Il a parlé des fonds qui ont été engloutis. Mais si ces fonds, on en faisait par exemple un basket fund avec une coordination dans la gestion, je pense qu'on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Il y aurait, on parlerait plutôt d'autres choses. Et plus, en plus de cela, un autre défi relevé, c'est l'amélioration de la prévention et de la qualité des services offerts aux survivants. Ça aussi, c'est un autre grand défi qu'il faut relever. Donc, il y a un problème également de la participation des acteurs de terrain au système national de collecte de données. Il y a des données, mais les gens travaillent jusque-là en ordre dispersé. Il n'y a pas une coordination, bien que le gouvernement ait donné le leadership.
Qui devait donner l'impulsion, n'est-ce pas?
C'est le ministère du Genre qui devait donner. C'est le ministère du Genre qui a donné l'impulsion. L'impulsion a été donnée. Le leadership existe. Mais malheureusement, les intervenants ne se soumettent pas encore. Il n'y a pas une soumission de tous les intervenants. En principe, le gouvernement doit frapper du poing sur la table, mais également ceux qui interviennent, qui appuient les différents intervenants, devaient passer par le gouvernement pour une meilleure coordination des actions sur terrain, tant au niveau des survivants eux-mêmes qu'au niveau de la coordination, de la collecte et de la participation. Ce n'est pas à cela qu'on assiste malheureusement.
Que faut-il pour lutter efficacement contre les violences sexuelles en RDC? Madame Florence Boloko, je rappelle que vous êtes directrice adjointe du Centre des communications au ministère du Genre, Famille et Enfants. Vous allez suivre cette réaction qui a été lue pour vous, madame.
Augustin Mwango, depuis Kanima dans la province de Maniema, je suis déçu, mais pas surpris de ces rapports, car il n'est pas possible que les violences sexuelles diminuent dans un pays où les groupes armés restent comme du champignon, que la faiblesse de l'appareil judiciaire n'est pas à démontrer à cause des interférences politiques. Mais cela devrait interpeller nos dirigeants, car même la cohésion et la paix qui sont recherchées actuellement ne seront jamais retrouvées sans une justice forte.
Votre réaction, madame?
Il parle de la faiblesse de l'appareil judiciaire. Bon, il a parlé de plusieurs choses, mais je me dis que nous déplorons plusieurs choses. Nous déplorons le manque de coordination. Nous déplorons ce qui se passe au niveau même des bailleurs des fonds qui financent ces actions sur terrain. Nous déplorons le comportement des intervenants et des différentes interventions. Parce que vous allez à d'autres coins où le gouvernement va travailler, vous arriverez, on vous dira que tel organisme international est passé par là, mais vous allez trouver des survivants qui n'ont pas bénéficié d'un quelconque appui, qui n'ont pas bénéficié des services adéquats, qui n'ont pas bénéficié...
Merci.
Et s'ils ont reçu quelque chose, ces survivants, la qualité n'y est pas. La qualité n'a pas suivi.
Merci, Madame Solange Loachiga. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif du caucus des femmes congolaises du Sud Kivu pour la paix. Que faut-il pour lutter efficacement contre les violences sexuelles en RDC? Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Kinshasa.
Maître Francis Joseph Gustemba Lokombe, depuis Kinshasa, commune de Ngaliema. Tant que la RDC ne comprendra pas que certains individus véreux usent de la violence sexuelle comme arme pour déstabiliser la femme congolaise, nous ne cesserions jamais de tourner autour de la cruche. Les plus grands remèdes aux violences sexuelles en RDC sont la formation des militaires sur le respect des droits de l'homme et la dignité de la femme, la non-intégration des bandits armés au rang des RDC, la création d'un tribunal spécial, comme on l'a fait avec les tribunaux administratifs et les tribunaux de commerce, qui seront dirigés par les femmes afin qu'elles jugent sans complaisance ceux qui les violent, et enfin l'accompagnement de tous les hommes semble impérieux pour que la femme congolaise quitte cet état rocambolesque.
Des tribunaux spéciaux qui seraient dirigés par les femmes, madame, ça peut être l'une des solutions?
Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Parce que pour lutter contre les violences sexuelles, ce n'est pas évident que si ce sont les femmes qui prennent le lead, que la solution serait du tic au tac. Le mal est profond et donc il faut repenser des stratégies plus efficaces que les stratégies qu'on a utilisées. Sur certains points, je suis d'accord avec l'auditeur. Il a proposé un certain nombre de voies de sortie pour éradiquer le fléau, mais aussi il a épinglé le fait que il y a ces problèmes, cette problématique de la guerre qui est la cause principale. Et donc nous pensons que franchement, on doit repenser la manière de trouver des solutions à cette question. Mais je voudrais dire, tous les auteurs, quelles que soient leurs identités, couleurs, sont-ils au-dessus du gouvernement congolais? Sont-ils au-dessus de la communauté internationale? Et c'est ça la question que bon nombre de Congolais et Congolaises, et particulièrement les femmes qui vivent à l'est de la RDC, se posent. Et donc il revient au gouvernement congolais d'abord de prendre le taureau par les cornes.
Et vous ne pensez pas qu'il faut durcir, n'est-ce pas, les peines comme ça s'est passé en Inde où les violeurs ont été condamnés à la peine capitale?
Oui, effectivement. Je pense qu'au début, j'ai dit que même un cas suffit. Quand j'ai parlé de ce un cas, je vois par exemple ce qui s'est passé en Inde, là où quand c'est une femme qui est concernée, tout le monde s'élève. Et donc, nous devons cesser de banaliser la question des violences sexuelles, parce que nous devons savoir que la femme, qui constitue 52% de la population, en écrasant, c'est toute la communauté congolaise qui est écrasée. Et donc, il faut repenser les acteurs impliqués, les victimes surtout, qui ont des propositions pratiques, concrètes à donner, devraient être impliqués pour repenser les stratégies afin de mettre fin à ce fléau.
Maître Rifin Louko, je rappelle que vous êtes avocat expert en violences sexuelles. Que faut-il pour lutter efficacement contre les violences sexuelles en RDC? Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bounia en province orientale.
Maître David Mambo, de Bounia en province orientale. La loi seule n'est pas suffisante pour lutter contre les violences sexuelles en RDC. Pour qu'elle soit efficace, il faut davantage rapprocher la justice des justiciables, car le viol est souvent commis dans des coins reculés contrôlés par les groupes armés. Par ailleurs, je crois qu'il y a lieu de créer un fonds spécial de soutien aux victimes des viols et doter les OPJ de moyens de transport en vue de faciliter le transfert des inculpés.
Oui, maître Rifin Louko.
Oui, mais il a raison, il rejoint la proposition que nous avons donnée, mais il faut d'abord démentir ici, Guy, que les domaines, et ça c'est statistique à l'appui, il faut qu'on s'appuie aux statistiques. Statistique à l'appui, et d'ailleurs ces statistiques que nous avions transmis à l'époque au ministère des Arts, parce évidemment c'était avant que son excellence Madame Geneviève Nissois, nous avions transmis les statistiques judiciaires. Statistiques à l'appui, les domaines dans lesquels notre justice a prouvé qu'on peut compter sur elle, c'est le domaine des violences sexuelles. Tenez, la Cour suprême, pour les trois violeurs de sa juridiction, ça veut dire député qu'on a présenté devant la Cour suprême, tous trois ont été condamnés. Donc, maximum. Si vous allez dans les statistiques de toutes nos juridictions militaires, plus de 80% des décisions, des condamnations, justice militaire. Si vous allez dans notre justice de droit commun, dans la justice civile, la conséquence c'est quoi aujourd'hui? Toutes nos prisons, plus de 60% des condamnés de nos prisons sont des violences sexuelles. Donc c'est le domaine dans lequel la justice congolaise a prouvé qu'on peut compter sur elle. Nous devenons maintenant une référence. Notre jurisprudence devient une référence de toute la région. Donc on s'appuie sur la façon dont en RDC on condamne. Il faut donc que ce coup de chapeau-là soit donné à tout seigneur tonnerre. Le problème de notre justice, c'est que le financement pour lutter contre les violences sexuelles, la justice ne voit rien. Et c'est OCHA qui gère, donc la coordination des agences par OCHA, qui gère ces fonds sans aucune représentation du gouvernement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on peut dire que la justice ne condamne pas tous les cas, parce que tous les cas ne lui arrivent pas. Mais au moins, les cas qui lui arrivent, sur 100%, plus de 80 sont sanctionnés par une décision de condamnation. Donc, ça, à tous les Newton. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, Tabo, principalement, c'est le tribunal spécial sur la RDC contre les violences sexuelles. Et là, on avait proposé cette loi-là au Parlement, et vous savez comment le Sénat avait repoussé cette loi, parce que dans le Sénat, il y avait beaucoup de concernés. Il y avait des anciens chefs de guerre qui se sont organisés pour repousser ces projets de loi. Vous savez, d'ailleurs, vous avez organisé une émission par rapport à ça, ici sur cette antenne. Ensuite, il faut déployer, financer, donc donner le financement pour déployer le plus grand nombre d'OPJ sur l'étendue du territoire national et d'inspecteurs de la justice militaire. Qui soient partout, dans les Walikale, dans les Kindoumaniema, dans les Lubero, dans les Touri, dans les Siro, dans les Bazouele, partout et Hotouele, qui est, et là je ne parle que des côtés de l'Est par rapport à la guerre, qui est des OPJ partout. Ces financements-là, jusqu'aujourd'hui, le gouvernement les cherche, mais les agences les gèrent à leur façon. Donc, il faut que sur cette question-là, on en parle, des vives voix comme ça, et puis, qu'on cesse de former les gens sur les violences sexuelles, ça engloutisse beaucoup de choses, pendant que l'impact, on ne voit pas. Et en fait, je considère que pour que nous puissions lutter efficacement contre les violences sexuelles, cette loi-là de 2006, cette loi-là pour la consommation de la communauté internationale, cette loi qui a été encore, nous l'avions stigmatisée plusieurs fois, doit être remodifiée. Donc cette loi doit être modifiée, notamment en ce qui concerne l'âge des majorités, en ce qui concerne également la peine, parce que la peine, comme quelques auditeurs l'ont dit, il faut renforcer la peine. Et ensuite, pour lutter contre les violences sexuelles, il faut info de prise en charge contre les victimes. Info de prise en charge. Parce que le gouvernement qui est condamné, chaque fois que c'est un policier, c'est un homme en uniforme, le gouvernement qui est condamné civilement responsable, le gouvernement ne paye jamais. Ce qui fait que les victimes de violences sexuelles, rarement, c'est moins de 5% qui reçoivent la réparation. Même si on condamne les bourreaux, mais ils ne reçoivent pas. Et les soins de santé. Donc il fallait que les soins de santé sur les violences sexuelles soient décrétés gratuits. Donc gratuits, ces soins de santé-là, non, ces victimes-là. Et puis, qu'on devait également, et là j'ai proposé ça dans mes ouvrages, qu'on devait autoriser l'avortement, par un texte de loi, l'avortement de toutes ces grossesses ici de violences sexuelles. Toutes ces grossesses-là ici de violences sexuelles qu'on devait autoriser que nos médecins puissent interrompre ces grossesses. Parce que les troubles que ça crée sur toutes ces femmes-là, et comme le docteur Mukwege l'a dénoncé, que non, des mamans qui ont été victimes de violences sexuelles ont accouché des filles et des violences sexuelles qui, elles également, à leur tour, ont été violées. Ces cycles-là, infernal, c'est intenable. Il faut donc qu'on permette également que ces grossesses-là soient interrompues. Donc il y a là quelques propositions pour que nous puissions lutter efficacement et puis qu'on arrête. L'OCHA ne doit plus gérer celle et tous ces organismes, tous ces fonds-là qu'on engloutisse dans ces projets-là sans l'œil vigilant du gouvernement.
Merci Madame Florence, parce que vous semblez remettre en cause la gestion par les humanitaires des fonds et qui sont alloués à la lutte contre les violences sexuelles en RDC. Qu'est-ce que vous proposez?
Moi j'aurais proposé une coordination. Autant nous avons comme défi à relever le problème de la collecte de données, donc avoir une base de données avec toutes les données centralisées au niveau du ministère du genre, mais également on aurait voulu qu'il y ait un basket fund avec le contrôle du gouvernement, quel que soit le ministère qui aurait ce contrôle-là, mais au moins que l'on sache qu'est-ce qui entre dans ce basket fund et qu'est-ce qui en ressort et pour quelle destination, pour quel bénéficiaire, pour quelle genre de prise en charge.
Y a-t-il un cadre de concertation entre vous, gouvernement et les partenaires, notamment les humanitaires?
Il y a un cadre de concertation entre ceux qui collaborent, par exemple les agences des Nations Unies, j'ai cité UNFPA et j'ai cité UN Women. Avec la MONUSCO aussi.
Ceux-là qui refusent de collaborer, vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi ils refusent de collaborer avec le gouvernement congolais?
On ne s'est pas posé la question de savoir. On se pose la question de savoir justement pourquoi ils ne peuvent pas collaborer, parce qu'ils sont sous le ciel congolais, ils sont régis par les règlements congolais et en principe ils devraient collaborer. Et ça, c'est notre appel pressant, c'est notre appel de tous les jours, c'est notre souci quotidien. C'est-à-dire qu'ils collaborent, que l'on sache qu'est-ce qui est dépensé, qu'est-ce qui bénéficie aux survivants. Et si je dois parler de la prise en charge, je vous dirais qu'en 2011, 92% des survivants avaient reçu une prise en charge. Par contre, en 2012, c'est seulement 71% de survivants.
C'est dû à quoi?
Justement, il y a une régression. Mais c'est dû au fait que, d'abord, les moyens dont dispose le gouvernement, mais également le nombre grandissant des cas de survivants. Donc les besoins sont grandissants pendant que les moyens ne suivent pas. Et donc s'il y avait cette coordination-là, dans un basket fund, on sait qu'est-ce qui sort, qui prend quelle direction, pour quel bénéficiaire, pour quel genre de prise en charge, c'est là aller certainement résoudre le problème.
Madame, nous sommes presque à la fin de l'émission, vous pouvez conclure?
Si je peux conclure, c'est un appel pressant que je lance à tous les intervenants dans les cas, dans la prise en charge des survivants, des violences sexuelles, de tous les intervenants, de tous les acteurs, de pouvoir référer, de pouvoir transférer leurs données au niveau de la base de données qu'il y a. Merci. Au ministère du Genre, qui a le monopole et le leadership de la coordination, pour que nous puissions donner et que l'on sache quels sont les autres intervenants qui sont dans les zones non encore couvertes et qu'ils transfèrent également les données à leur disposition.
Merci, Madame Solange Luachiga. Ces violences sexuelles sont... Solange Luachiga, oui, je disais que ces violences sexuelles sont à l'origine des traumatismes qui s'installent dans la durée, sur toute la vie, si les victimes ne bénéficient pas d'une prise en charge appropriée. Et comment, dans votre structure Caucus des femmes, vous orientez ces victimes qui viennent se plaindre auprès de vous?
Oui, merci beaucoup. Ces victimes, nous les orientons vers des institutions qui ont à leur charge la prise en charge holistique. Par exemple, nous les transférons vers l'hôpital des Panzi avec qui nous collaborons pour la prise en charge psychosociale, mais aussi pour la prise en charge juridique, parce que l'hôpital des Panzi a une clinique juridique. Et voilà comment est-ce que nous orientons ces victimes pour une prise en charge. Mais je voudrais dire que il faut que la guerre s'arrête. Il faut une justice juste. Il faut cesser le trafic d'influence. Et il faut repenser le programme dans tout son ensemble et associer les victimes dans la recherche des solutions pratiques.
Merci, je considère ça comme votre conclusion. Maître Rifin Loukoum Soubao, votre conclusion?
Il y a beaucoup trop d'impunité en ce qui concerne ces violences sexuelles à l'est du pays, parce que le statut des Roms prévoit que tout viol fait dans le cas d'une attaque généralisée, eh bien, est constitutif, n'est-ce pas, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Tout ce qui se passe comme viol à Kiwanja, à Rutshuru, à Tchengerero et à Kibumba et partout là-bas, nous attendons, madame la procureure, pour la Cour pénale internationale, lancer des mandats d'arrêt internationaux, principalement pour des bourreaux qui sont poursuivis pour viol. Et ça comme crime contre l'humanité, crime de guerre. Et là, lorsque tous ces bourreaux dans l'est du pays vont apprendre que tel chef de guerre a été traduit des VAD, la Cour pénale internationale.
Mais l'impulsion viendrait de qui, n'est-ce pas, de la RDC, du gouvernement congolais?
Bon, tout ça, nous avons déjà dit ça, tout ça. Mais principalement, comme l'a dit ma sœur, et je l'ai dit au début de l'émission, la source principale de tous ces flics de violences sexuelles en RDC, c'est la guerre. Et il faut donc, j'attends la proposition des concertations en ce qui concerne l'éradication des violences sexuelles. Il faut donc qu'on mette fait à la guerre et
merci.
On mettra fait aux violences sexuelles en RDC.
Merci, c'est la fin de cette émission et bon suite de programme sur Radio Capsule.